18h-19h, Alpe 1, au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec vous tous qui nous rejoignez peut-être à 7h, soyez les bienvenus si c'est le cas. On va passer une heure ensemble, une heure d'infos, d'opinions et de points de vue, comme chaque soir sur Alpe 1, ce vendredi 27 mai. Bonsoir Cyrielle.
Bonsoir Alex, bonsoir à tous.
Nous ne sommes pas seuls autour de la table, puisque comme chaque soir, un invité est à nos côtés, une invitée plus précisément ce soir.
Et qui arrivera dans quelques minutes, Patricia Granet, maire de Digne-les-Bains, présidente de la communauté de communes Asbl-Verdon et première vice-présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. De nombreuses accusations qui planent sur elle. Il manque au maire de Digne la volonté de se battre pour ramener des moyens à la ville. Une accusation qui provient de Marie-Anne Beaudumorel, qui fait partie de l'opposition. Marie-Anne Beaudumorel qui va plus loin et qui l'accuse aussi de clientélisme par rapport à des associations. Patricia Granet est aussi contre le rapprochement des hôpitaux de Digne-les-Bains et de Manosque, une accusation portée il y a quelques semaines.
Et on en parlera donc avec notre invitée. Évidemment, dès qu'elle sera arrivée dans nos studios, on l'attend d'un instant à l'autre, Patricia Granet, qui se prêtera également au jeu du self-o-maton et de son autoportrait qui sera attiré dès la fin de cette édition.
Et puis elle deviendra la programmatrice musicale d'Au bout de l'actu.
À elle de découvrir, tout comme vous d'ailleurs, hein, qui nous écoutez, qui a pu dire cette phrase, la phrase du jour.
Message du gouvernement aux enfants de la République, frappe un flic, lui sera décoré et toi libéré, tu pourras même recommencer.
Autre rendez-vous autour de l'actualité, la Tribune Libre.
Nous parlerons de la journée de prévention et de dépistage des cancers de la peau, c'était hier. Mais aujourd'hui, des chercheurs de l'INSERM indiquent avoir développé de nouvelles molécules anti-mélanomes capables de réduire la viabilité des cellules cancéreuses. La question qu'on vous posait aujourd'hui dans les rues des Alpes du Sud, est-ce que vous faites attention, voire très attention, à vous protéger du soleil et des premiers soleils?
Alpe 1, 18h-19h, au bout de l'actu sur Alpe 1.
Et dans un instant, c'est bien sûr l'essentiel de l'actualité des Alpes du Sud qui vous attend avec à la une ce soir, Cyrielle.
Et la grève qui était suivie ce matin au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud sur le site de Gap.
On y reviendra juste après l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, présenté en moins de 2 minutes ce soir par Marie Dompé.
Bonsoir Marie.
Bonsoir Marie.
Bonsoir à tous. L'information de la soirée, c'est le forfait de Rafael Nadal à Roland-Garros. L'Espagnol quitte le tournoi sur blessure, Mathieu Bellisario.
Oui, une blessure au poignet gauche qui faisait souffrir l'Espagnol depuis plusieurs jours maintenant. Malgré la douleur, Nadal avait pourtant passé 2 tours, grâce notamment à des infiltrations, mais la douleur était décidément trop forte. Le numéro 5 mondial a donc décidé d'abandonner la veille de son 3e tour afin d'éviter une fracture. Nadal devra donc patienter pour remporter un 10e Roland-Garros. Voilà qui fait les affaires de Joe Wilfried Tsonga. Il devait retrouver l'Espagnol en quart de finale. Vous savez ce qu'on dit, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres.
Sur les courts aujourd'hui, Richard Gasquet et Andy Murray se sont qualifiés pour les 8e de finale. Gilles Simon jouera ce soir contre Victor Troicki et Jérémy Chardy contre le tenant du titre Stan Wawrinka. Manuel Valls recevra demain les professionnels du secteur pétrolier après plusieurs jours de grève et de blocage contre la loi travail. Ce soir, tous les dépôts pétroliers ont été débloqués sauf un, celui de Gargenville dans les Yvelines où les salariés sont en grève. Grève aussi dès ce soir à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique et le 2 juin à l'appel de la CGT Port et Doc. Du côté des stations-service, la situation s'est un peu améliorée car beaucoup ont été approvisionnés la nuit dernière. Une explosion dans un immeuble en construction cet après-midi à Frontignan dans l'Hérault. 5 personnes ont été blessées dont 2 grièvement. On ignore encore l'origine de cette explosion. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un président américain en exercice se rend là-bas. Barack Obama est allé à Hiroshima aujourd'hui. Il a rendu hommage aux 210 000 victimes japonaises de la première attaque nucléaire de l'histoire. Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel, a-t-il déclaré. Le football, bientôt un nouvel entraîneur pour Bordeaux. Un accord a été trouvé avec l'actuel entraîneur de Guingamp, Jocelyn Gourvennec, qui devrait donc rejoindre les Girondins la saison prochaine. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Très bonne soirée.
Merci Marie, et retour de cette actualité tout à l'heure dans une nouvelle édition. Ce sera dès 19h. On file tout de suite du côté du alpe1.com.
La question alpe1.com. Alpe1.com.
Avec cette question footballistique aujourd'hui.
Oui. Didier Deschamps fait-il preuve de racisme à la tête de l'équipe de France? C'est une attaque qui est signée Eric Cantona après la non-sélection de Karim Benzema et le poste de réserviste de Hatem Ben Arfa.
Oui, la réaction n'a pas tardé puisque Didier Deschamps a décidé d'attaquer en justice Eric Cantona sur ses déclarations qui font beaucoup parler dans le monde du football. Beaucoup remettent en question d'ailleurs les affirmations d'Eric Cantona. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, vous êtes une très large majorité à ne pas être d'accord d'ailleurs avec ce que pense Eric Cantona. Vous dites non à 76%. Oui, tout de même à 18% et sans opinion à 6%. Voilà, vous continuez bien sûr à donner votre avis sur cette question, on y reviendra tout à l'heure à 19h. Tout de suite, l'actualité des Alpes du Sud et l'essentiel. Et à la une de l'actualité des Alpes du Sud ce soir, c'est tout d'abord le volet justice avec ce retour à la casse-prison pour cet homme de 36 ans, jugé hier pour violence conjugale.
Le prévenu écope de 15 mois de prison, dont 8 fermes et 2 ans de mise à l'épreuve pour avoir battu son ex-compagne lors d'une dispute le 25 avril dernier à Gap. L'homme était alors alcoolisé, sa victime aura 20 jours d'incapacité. Le prévenu a déjà été condamné 20 fois pour des faits de violence, vol ou encore consommation de stupéfiants. Il reste incarcéré à la maison d'arrêt de Gap. Et puis un couple escrocs du Bon Coin était aussi condamné hier devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains. L'homme âgé de 35 ans et la femme de 28 ans vendaient des téléphones portables, du matériel informatique ou encore des consoles de jeux vidéo sur le site Le Bon Coin. Le matériel n'existait pas et les paiements n'étaient pas sécurisés. Au final, on dénombre 110 victimes pour 136 virements de 36 000 euros et des retraits pour 45 000 euros. La femme a été condamnée à 15 mois de prison, dont un an avec sursis, un an avec sursis pour son compagnon.
Et puis la grève était suivie ce matin au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Une soixantaine d'agents s'est réunie devant la direction à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT et FO pour s'opposer aux suppressions d'emplois qui seraient imposées par le contrat de retour à l'équilibre financier. Le Chicas enregistrera en effet un déficit d'investissement de 30 millions d'euros et doit faire face depuis 2004 au paiement à l'acte. Les manifestants ont occupé la salle de réunion où se tenait le comité technique d'établissement avec la direction, un comité qui a pris fin rapidement, les syndicats ayant boycotté cette réunion.
L'association des maires dans les Alpes d'Haute-Provence va lancer une action de justice contre l'État.
Au cœur de la grogne, l'augmentation du fonds de péréquation communale et intercommunale. Les élus dénoncent un système injuste, un système dit d'équité où un citadin compte pour deux ruraux dans l'attribution des dotations, alors que ce devrait être le contraire selon l'AMF 04. Selon elle, la commune la plus pauvre des Alpes d'Haute-Provence percevra 170 euros alors que Megève obtiendra 1100 euros par habitant. Sisteron sera prélevé de 150 euros par habitant alors que Nice ne contribue qu'à hauteur de 9 euros.
Et puis c'est un sujet qui tombe au cœur de l'actualité face à la pénurie d'essence, le développement des voitures électriques.
Et les Hautes-Alpes viennent tout juste d'installer 80 bornes de charge, des bornes de recharge rapide environ 10 minutes sur les corridors nationaux et des bornes plus lentes, 30 minutes environ autour des zones commerçantes dans les hameaux ou les quartiers. Les premières seront mises en service au mois de septembre. Coût de ces installations, 1 600 000 euros.
Oui, je vous rappelle que c'est un sujet qui avait déjà été abordé il y a 2 semaines dans les Alpes d'Haute-Provence où la 50 bornes sont annoncées. Le bois, une véritable richesse pour les Hautes-Alpes où plus de la moitié du territoire est recouvert de forêts.
Et 70% d'entre elles sont gérées directement par les communes. Des élus qui se sont donc réunis hier à UPEX pour une journée de formation à la commercialisation de cet or vert. Ils font face aujourd'hui à une demande de plus en plus forte, notamment face au développement des chaufferies bois. Et en la matière, un projet inquiète, la méga centrale à biomasse de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. Selon l'association des communes forestières, elle pourrait déstabiliser le marché.
Et puis en sport, c'était bien sûr le jour J pour le Giro.
L'étape s'était lancée ce matin de Pignerol et comptait pour 161 km et environ 3300 mètres de dénivelé positif. Les coureurs ont franchi le col Agnel, le point culminant de ce Tour d'Italie 2016, avant d'entamer leur redescente sur Guillestre. Et c'est Vincenzo Nibali qui remporte cette étape. L'Italien donc est vainqueur de cette 19e étape après 161 km de lutte. Mikel Nive de Sky décroche la 2e place, mais le maillot rose va au Colombien Esteban Chavez qui concède 51 secondes sur Nibali, un maillot qu'il arrache à Stefan Kruijswijk. 18h11 sur la première radio des Alpes du Sud.
Et je vous rappelle que notre invitée ce soir est Patricia Granet, qui est maire de Digne-les-Bains, présidente de la communauté de communes Asse-Bienne-Verdon et première vice-présidente du conseil départemental des Alpes d'Haute-Provence qui nous a rejoint. Bonsoir,
bonsoir
Patricia Granet.
Bonsoir.
Et merci d'être à nos côtés ce soir pour cette rencontre et cette discussion qui portera évidemment autour des projets et des différents sujets qu'a abordé Cyrielle en introduction. Avant cela, une réaction sur l'actualité.
Une réaction notamment par rapport à votre casquette professionnelle. On rappelle que vous êtes médecin. On a parlé du Chicas aujourd'hui, du Chicas de Gap, et un point important a été souligné, les difficultés impliqué par la tarification à l'acte. Est-ce que vous pourriez éclaircir aujourd'hui cette difficulté, puisque certains aujourd'hui demandent que le gouvernement revienne sur cette mesure?
Oh, c'est vrai que la tarification à l'activité, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vit cette situation dans les centres hospitaliers. En fait, un patient, lorsqu'il est hospitalisé, son séjour, quel qu'il soit, et par rapport à la pathologie qu'il présente, va être valorisé. On appelle ça valorisé, c'est-à-dire à la fin, ça a un coût. Voilà, la personne qui fait une embolie pulmonaire. Au total, je dis des chiffres comme ça, hein, ça va coûter 2000 euros. Et donc, c'est 2000 euros qui rentreront dans les caisses de l'hôpital. Et les dotations, l'enveloppe de dotation comme on pouvait avoir auparavant n'existe plus. C'est ce qui va
C'est ça qui crée la difficulté aujourd'hui.
Ben, ça crée la difficulté parce que, oui, ça crée les difficultés d'équilibre budgétaire, parce que pour les structures hospitalières comme les centres hospitaliers de Gap, les centres hospitaliers de Digne, on répond à une offre de proximité qui est nécessaire pour prendre en charge les patients. Il faut prendre en charge le patient et la logique comptable n'est pas en adéquation avec, quoi. Je veux dire, on prend en charge, on est obligé de les prendre en charge, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que par rapport à de grosses structures, les centres hospitaliers généraux sont quand même perdants.
Vous êtes d'accord plus ou moins avec le discours de ce matin, notamment le discours des syndicats, pour dire qu'aujourd'hui, la logique, donc vous l'avez dit, elle est comptable, elle est presque marchande?
Oui, elle est marchande presque. C'est ça qui n'est pas normal. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Alors après, je comprends, hein, le CREF, on en a vécu plusieurs aussi au centre hospitalier de Digne. J'entends les syndicats, j'entends le personnel, c'est difficile. Inversement, donc hors tarification à l'activité qui nous plombe réellement, hein, c'est compliqué, il y a tout l'objectif de retourner à l'équilibre et de faire des économies, et comme dans les collectivités, de se dire on ne rembauche pas, et voilà, on est tous
La difficulté de trouver un équilibre quand on parle de santé, évidemment.
C'est compliqué, oui. Enfin, on a du mal. Quand on est professionnel de santé, on a du mal. Inversement, il faut être raisonnable dans ce qu'on fait, c'est ça.
Et quand on est patient, on a du mal à comprendre aussi qu'il puisse y avoir des économies qui soient faites, souvent traduites par sur le dos des patients.
Je pense que...
On sait que la réalité n'est peut-être pas
comme telle. La réalité n'est pas comme telle,
c'est souvent comme ça qu'elle est perçue, en tout cas.
Elle peut être perçue comme ça, mais elle n'est pas comme telle. C'est-à-dire que le professionnel de santé, sur le terrain, fait tout ce qu'il peut pour son patient. C'est peut-être ce qui crée la frustration, parce que derrière, il sent la tension qui fait qu'il y a cette logique comptable.
Mais ça veut dire quoi, alors, dans ce cas-là? C'est que l'État doit reformuler les choses, doit trouver de nouvelles solutions? Parce que on sent bien qu'il n'y a pas de porte de sortie miracle par rapport à cela. Vous nous le disiez, l'engagement évidemment des médecins, il y a les patients qui espèrent avoir une médecine qui soit à la hauteur. Qui doit prendre des décisions et quelles devraient être ces décisions?
Alors, je crois qu'on a aujourd'hui en France, on a encore un des meilleurs systèmes de santé au monde. On sent nos hôpitaux en grande souffrance. Hein. Je vois le personnel à Digne, je pense que c'est pareil à Gap, le personnel en grande souffrance, en grande tension. Et donc, bon, il y a une réforme, hein, on va arriver au cœur du sujet, on en a parlé il y a quelques temps, qui est la loi de modernisation de la santé, et actuellement les fameux groupements hospitaliers de territoire. Alors, est-ce que la solution va venir de là? En attendant, le principe du groupement hospitalier de territoire, initialement, il est là pour valoriser le patient et le parcours du patient. Est-ce qu'in fine, on va arriver à ça? L'objectif, c'est ça.
Et limiter les déficits par la
même occasion. Et limiter les déficits en mutualisant. Ouais. En mutualisant les compétences.
Ça, c'est la théorie. Et on va y revenir dans un instant, plus en détail, si vous le voulez bien.
Si vous voulez.
Est-ce qu'il faut craindre, dans l'avenir, une perte de qualité des soins? C'est aussi ce qui est avancé aujourd'hui.
Pour moi, c'est une inquiétude. Il ne faut absolument pas perdre, mais la logique administrative et comptable fait que il y a tellement de tensions actuellement dans les structures que c'est difficile. Et c'est difficile pour un patient de s'y retrouver. Parce que dans ce contexte-là, on désimmunise beaucoup les structures. Moins dans nos hôpitaux périphériques, mais tout cela qu'on peut contribuer à déshumaniser et rendre plus compliqué la prise en charge du patient.
Alors, le CHECAS au cœur de l'actualité des Alpes du Sud, mais aussi cette fameuse GHT, ce groupement hospitalier de territoire dans les Alpes d'Haute-Provence. On en a parlé et on va en reparler ce soir avec vous plus longuement pour vous laisser la parole sur les différentes finalement accusations qui vous ont été portées, même si vous y avez déjà répondu. On va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que les choses vont changer, des décisions vont être prises dans les jours à venir. Et on en parlera dans un instant. Patricia Granet a pris une pause et vos prévisions Météo France. À tout de suite.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invitée Patricia Granet, qui est maire de Digne-les-Bains, je redis tout une dernière fois, présidente de la communauté de communes de Aspe-Léon-Verdon, première vice-présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. On en parlait juste avant la pause et on va y revenir directement sur ce sujet qui concerne la GHT, je rappelle, le groupement hospitalier de territoire. L'idée étant, et pour synthétiser, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, de regrouper des hôpitaux sur un même et seul territoire, donc sur un même département, pour, comme on le disait tout à l'heure, retrouver une efficacité, avoir une force d'attraction sur les médecins et donc répondre à des besoins pour les patients. Et par la même occasion, évidemment, essayer de faire des économies et de mutualiser les moyens. C'est le vœu de la ministre de la Santé, un vœu qui a été appuyé d'ailleurs sur le département des Alpes-de-Haute-Provence par le député Christophe Castaner, appelant à justement ce que cette mutualisation se fasse entre Manosque et Digne-les-Bains, mais ça concerne aussi les hôpitaux de Forcalquier dans les Alpes-de-Haute-Provence. Passisteron, qui est déjà regroupé avec Gap pour le Chicaz, je remets tout dans le contexte avant de vous poser la question. À ce jour, une information évidemment qui est sortie sur Alpe 1, vous aviez eu l'occasion de répondre de votre côté sur le mécontentement que vous retrouviez d'ailleurs sur les différents témoignages qu'on avait relevés, et, d'acteurs politiques ou socio-professionnels qui constataient ou qui semblaient constater que finalement, le seul frein aujourd'hui à cette mutualisation, à l'accélération de cette mutualisation, c'était vous. Ce à quoi vous avez répondu très clairement, je comprends pas très bien ce qu'on me reproche. Moi qui, au contraire, essaie de manier tout ça avec souplesse et de manier aussi les rapports humains, parce qu'il y a aussi des confrontations d'hommes et de femmes, à savoir qui dirigera quoi, parce que dans une mutualisation, il faut trouver une direction commune qui soit à Manosque, soit à Digne. J'espère être clair et n'avoir perdu personne dans cette explication. Et toute la question est de savoir pourquoi on sous-entend que vous seriez ce grain de sable dans ce nouveau mécanisme.
Peut-être parce que dans ce mécanisme-là, je réagis pas en tant qu'élu, mais en tant que professionnel de santé, et que mon objectif, c'est la prise en charge des patients, et que normalement, cette loi et cette GHT est faite pour optimiser la prise en charge des patients et toutes les filières de prise en charge en fonction des pathologies. Et que j'ai bien conscience, d'abord peut-être pour donner une précision, pour le département des Alpes-de-Provence, la GHT c'est Digne, Manosque et tous les hôpitaux locaux, donc Forcalquier, Riez, Castellane, Seine, etc. Ça va regrouper tous les hôpitaux locaux. Il peut être intéressant dans le cadre d'un projet départemental, même pour la prise en charge des personnes âgées. Donc je pense que c'est parce que j'ai cette vision du patient et que je sais pertinemment qu'un patient, selon la pathologie qu'il va présenter sur le département des Alpes-de-Provence, il ne pourra pas être pris en charge. Il pourra être conditionné, mais il sera obligé d'être adressé vers une structure plus costaud, qui soit le centre hospitalier d'Aix, avec qui on a déjà des relations et avec lequel on travaille déjà depuis quelques années. Donc il y a des liens. Oui, il y a des liens.
Mais c'est ça aussi qu'on vous reproche dans cette situation-là, c'est d'être finalement trop proche et d'avoir un parti prenant avec Aix-en-Provence qui a pris une direction qui a pris la direction de Digne-les-Bains. Alors vous dites simplement, mais attendez, moi je vais pas me couper d'Aix-en-Provence, qui nous ramène de l'argent, qui nous permet aussi d'équilibrer, si on peut le dire, les comptes de Digne-les-Bains, sachant qu'ils sont déficitaires et de plusieurs millions. On connaît d'ailleurs le déficit précis de l'hôpital de Digne-les-Bains.
Le déficit annuel reste autour de 2,5 millions. Il y a des progrès.
Ce qui correspond, et c'est ce que vous nous annoncez encore une fois, à ce qu'apporte, en gros, l'hôpital d'Aix-en-Provence.
C'est l'hôpital, attention, là, il ne faut pas mélanger. L'hôpital, il y a le déficit de Digne, il y a la gestion, et puis il y a la CHT. Et là-dedans, il y a de l'argent qui est l'ancêtre de la GHT. Et qui est plus large, qui va aussi avec Salon. Et là-dedans, il y a de l'argent qui a été investi. Il y a des collaborations qui ont été mises en place et qui existent aujourd'hui. Et on ne peut pas s'asseoir sur ça.
On ne peut pas s'asseoir, mais pourquoi on ne pourrait pas s'en passer ? Pourquoi on ne pourrait simplement pas s'en passer, devenir autonome dans les Alpes-de-Haute-Provence ? Aux yeux de la loi, rien n'empêche effectivement qu'Aix-en-Provence soit dans ce regroupement avec Manosque et Digne, hein, pour faire court. Mais pourquoi il ne serait pas plus simple que les Alpes-de-Haute-Provence soient totalement autonomes, au vu du fait que finalement ce que rapporte Aix-en-Provence n'est pas une valeur ajoutée si forte ?
C'est sûr qu'on peut ne pas être satisfait, mais aujourd'hui, ce qui est en place, si on fait une grande croix dessus, il faut le reconstruire. Donc ça veut dire pendant quelques mois, voire quelques années, si on ne trouve pas de professionnels de santé, eh ben, rester sans neurologue, sans urologue, du moins à Digne, hein, et même à Manosque, sans certaines spécialités dont on a besoin et dont on a aujourd'hui dans cette collaboration. Après, c'est pas colossal, certes, mais l'autre problématique, c'est que quand on dit qu'on va réadresser le patient sur les Bouches-du-Rhône, parce que c'est là où on a les grosses structures, ça sera Aix, ça sera le CHU aussi, parce que de toute façon, voilà, on a aussi nos affinités, les médecins, donc c'est pas complètement fermé. Mais aujourd'hui, moi, m'asseoir et dire, bon ben voilà, à compter d'aujourd'hui, on dit au revoir au neurologue, on dit au revoir à l'urologue.
Mais pourquoi ils viendraient plus si Digne et Manosque sont regroupés ? Qu'est-ce qui fait qu'ils seront finalement...
Parce qu'on n'a pas, nous, on n'en a pas, mais même Manosque n'en a pas. L'objectif de la GHT,
par exemple, c'est de se renforcer pour faire venir ces médecins.
Oui, mais c'est aussi de... Par exemple, nous, à Digne, on a des pneumologues que n'a pas Manosque. Mmh. Donc, on va penser que dans la GHT, nos pneumologues de Digne vont aller travailler. Bon, il faudra renforcer les équipes parce qu'on n'est pas assez quand même, mmh. malgré tout, partout. Mmh. Et puis que l'équipe de pneumologues va couvrir les deux centres hospitaliers. C'est ce qui est en train de se mettre en place pour la gastro-entérologie. C'est ce qui s'est mis en place pour la chirurgie viscérale. Donc, ces choses, on les a. Mais après, on n'a pas tout sur le département des Alpes-de-Provence. Donc, ces choses dont on n'a pas du tout et qu'on a déjà avec Aix, il faut les garder. Enfin, moi, je trouve que c'est, il faut avoir du bon sens. C'est du bon sens. Du bon sens.
Je vais peut-être poser une question qui peut paraître un peu abécédaire, mais je suis auditeur, je ne comprends pas tout. En fait, je suis gravement malade, je vais à Digne-les-Bains. On peut me conditionner à Digne. Finalement, on m'enverra quand même sur un grand centre hospitalier. Ça ne va pas changer. Il n'y a rien qui va changer, finalement. Non, alors, que ce soit en GHT ou en CHT.
Mais tout à fait. Mais tout à fait.
Qu'est-ce qui change?
Ça va être après les mutualisations, nous, qu'on va mettre en place pour avoir une direction partagée au sein des finances, partager le DIM. Dans la GHT, au début, la fonction support, c'est mettre en partage les moyens informatiques, la pharmacie, des choses comme ça. Voilà. Au début, c'est juste ça. Donc, pourquoi se priver de quelque chose qui est en place médicalement et qui tourne? Et se dire qu'on fermerait tout, quoi. Voilà.
Peut-être parce que certains ont la crainte que tout cela soit absorbé à terme par Aix-en-Provence?
Oh, ça, je pense pas. Aix va être dans la GHT avec le CHU. Et puis, il y a une aberration quand même. Normalement, les centres hospitaliers universitaires dans les GHT sont censés être là en soutien, mais pas forcément inclus dans la GHT. Mmh. Bon. Mmh.
Une autre question, et ce sera peut-être la dernière sur ce sujet. Il y a des décisions qui vont être prises en fonction des choix qu'ont affirmé les différents centres hospitaliers, de savoir justement qui aura cette direction. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un tiraillement humain entre qui sera le chef de qui et qui est finalement peut-être le nœud du problème, ou une partie du nœud du problème?
Il y a certainement des égos là-dedans.
Oui.
Après, la GHT... elle n'a pas de personnalité morale. Les centres hospitaliers restent leur propre chef. Mmh. D'accord ? Il y a juste la notion de support. C'est-à-dire que c'est à partir de la fonction support que va un peu plus rayonner les choses. Mais bon, intelligemment, moi je ne voulais pas dire qu'on était, j'avais sollicité d'être établissement support, justement pour ne pas créer des tensions.
Alors, quand on dit établissement support, on veut dire, pour vulgariser un peu les propos, en gros, c'est Digne-les-Bains qui sera la direction générale de tous les hôpitaux.
Non, ça veut pas dire que l'hôpital de Digne-les-Bains va avoir hégémonie sur les autres centres hospitaliers. Ça veut dire que Digne aura une fonction un peu plus de coordination là-dedans, c'est tout.
Ouais.
Voilà. Mais en partenariat avec les autres et chacun. Et je dis, la GHT n'a pas support moral, quoi. Donc. Chacun pourra dire ce qu'il a à dire là-dedans, quoi.
Pour être très clair et pour finir, vous n'êtes donc pas la mutualisation avec Manosque, mais avec Aix-en-Provence.
J'ai pas compris la question.
La question est toute simple. Est-ce que, et je l'ai peut-être mal formulée, vous n'êtes donc pas la mutualisation et la GHT avec Manosque, mais vous y apportez une nuance, oui, mais avec Aix-en-Provence.
Avec des collaborations, oui. Mais en tout cas, on va voter là, hein, ça y est, les CME, les conseils de surveillance vont voter pour la GHT départementale.
Ouais. Et ce sera, les premiers votes arriveront début de semaine prochaine.
Il y en a qui ont déjà commencé, ouais. Je crois, et voilà, ça arrive.
On passe à un autre dossier. Vous êtes vice-présidente de l'Association des maires dans les Alpes-de-Haute-Provence, vice-présidente aussi du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Est-ce que vous partagez le constat du président de l'AMF, également maire de Sisteron, Daniel Spagnou, qui, lui, établit une baisse très importante de la subvention que le département alloue à l'Association des maires? De 10 400 euros en 2008, on est passé à 2 500 euros prévus en 2016.
Oui, c'est un fait. La somme exacte, moi, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un fait. Je sais que Daniel n'est pas content, et à juste titre. Maintenant, le département est également dans son travail de l'économie.
Rigueur, austérité,
complètement. Donc, ce n'est pas que pour l'Association des maires de France, hein, c'est des maires du département. C'est à différents niveaux que les subventions sont ou complètement arrêtées ou diminuées.
Mais l'AMF va même beaucoup plus loin, Daniel Spagnou va plus loin, puisqu'il demande au département de financer entièrement l'association, comme c'est le cas dans d'autres départements. Si je vous entends, ça ne sera absolument pas faisable, c'est une fin de non-recevoir.
Je ne suis pas seule à décider au département, hein, il y a le président, et ça se décide de façon collégiale. Donc en fonction de... Je crois qu'un courrier va partir... direction du département, et ça sera rediscuté.
S'il y a eu déjà une baisse des subventions, ce sera impossible de...
Je pense que les économies doivent être drastiques, donc je pense que ça risque d'être difficile.
Parlons d'un autre sujet, pardonnez-moi. On va se recentrer du côté de Digne-les-Bains et parler peut-être d'ores et déjà de cette RN qui fait beaucoup parler et qui a aussi fait parler alors votre principale opposante à la mairie de Digne-les-Bains, Marianne Baudu-Morel, qui était notre invitée mardi et qui succinctement revenait sur cette bonne nouvelle, sur le fait tout de même que la RN... Il y avait des travaux qui étaient en cours, qui étaient en vue, nous rappelant également qu'elle n'était pas pour rien sur cette décision, sans revenir sur la position qu'elle a pu porter sur ce dossier. L'ARN, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui?
Moi, j'en dis qu'aujourd'hui, nous avions une enveloppe de 30 millions d'euros, et pas plus, et pas moins, même si on l'espère un petit peu plus, et que donc il fallait intelligemment faire avec ces 30 millions d'euros. Moi, j'aurais préféré une autoroute, En passant, c'est elle qui s'y est opposée il y a très très longtemps. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on a passé un cap, on a eu un copil la semaine dernière, il y a un projet d'aménagement qui est enfin entériné, dans un consensus avec le département et avec tous les maires de l'axe Digne jusqu'à Maligé, avec des créneaux de dépassement, avec des ronds-points, et donc avec une sécurisation, donc les voies ne déboucheront plus sur la RN 85, et vous savez le nombre d'accidents gravissimes qu'il y a eu sur cette route. Donc voilà, on peut toujours dire qu'on n'est jamais satisfait. Moi, je pense qu'on a passé un cap intelligent.
Sur le papier, ça vous semble la bonne solution, en tout cas. Évidemment, il y a toujours la différence entre un projet qui a été dessiné sur un papier et ce qu'il sera à la sortie.
Il est bien affiné, le projet. Il est bien affiné, bien précis cette fois-ci, et tout le monde, avec un consensus.
Et on pourra envisager l'inauguration à quel moment?
En 2021.
Oui.
Marianne Baudu-Morel est même allée plus loin dans ses accusations, puisqu'elle a pointé des subventions clientélistes accordées à des associations. Écoutez-la.
Nous avons des subventions qui sont redondantes. Alors, je vais vous donner par exemple un exemple. C'est une association qui s'appelle Fleur de Pierre. Fleur de Pierre a un budget quand même de 203 000 euros avec des créations en fait d'emplois, mais ce sont des emplois qui ne sont pas utiles, qui sont des emplois qui reposent uniquement sur la solidarité. 8 salariés, dont par exemple des maîtres composteurs dont je découvrais même l'existence. Ceci dit, pourquoi? C'est pour tout simplement aller dans le sens en fait d'un certain électorat.
Aller dans le sens d'un certain électorat, ces 200 000 euros, ils n'auraient pas pu être mis ailleurs? C'est plus ou moins la question qui est posée par Marianne Baudu-Morel.
Oh, je doute fort que ce soit 200 000 euros qui soient mis sur à fleur de pierre.
Elle se trompe dans le montant.
Je ne l'ai pas en tête moi, mais elle se trompe sur le montant de mon fait. À fleur de pierre, par exemple, le compostage à la communauté de communes, on n'a pas voulu verser les subventions. Donc, fleur de pierre est actuellement en train de monter au créneau. Reste qu'il y a un service rendu par le compostage sur le collège Maria Borelli et notre cantine, et qu'on va être obligé quand même de renégocier ça, parce que...
C'est quoi cette association d'ailleurs, pour être tout à fait précis?
Petit à petit, nous, on est... Vous savez, elle est marrante, mais du jour au lendemain, on ne peut pas claquer les doigts et de dire « Ouf, c'est comme ça ». Donc, on est en train de retravailler le dossier à fleur de pierre, morceau par morceau, parce que pour nous aussi, moi, je n'ai pas la lisibilité complète sur cette association. Et donc, petit à petit, on recadre les choses, mais progressivement, tout se fait pas en un jour.
Donc, finalement, elle a plus ou moins raison dans ce qu'elle dit.
Non, le clientélisme, elle a complètement tort.
Mais sur l'utilité des emplois?
Sur l'utilité des emplois, j'en sais rien du tout. Ça, c'est ses interprétations à elle. Mmh. Et elle a une tendance très forte à prendre les choses, à les amalgamer, à les ressortir à sa façon pour décrédibiliser les gens qui sont en face d'elle. La vérité, elle n'est pas dans ce qu'elle dit. La vérité, elle est qu'à fleur de bière avait certainement des subventions un peu importantes et que nous, on est en train progressivement de les remettre à leur juste niveau. Quant aux emplois, c'est les emplois d'à fleur de pierre, et après, ils géreront en fonction des subventions que nous donnerons. Voilà. C'est une association, j'ai reçu un courrier même au national pour soutenir à fleur de pierre, donc je me demande aussi où elles sont ces ramifications. Mais en attendant, le clientélisme, c'est pas mon fait, et c'est pas le fait des élus de la ville de Digne aujourd'hui.
Mais vous êtes en train aussi d'annoncer une chose ce soir qui a souvent été dénoncée par Marianne Baudu-Morel, c'est que sur les associations, vous apportez une vigilance particulière, et que tout est repris point par point pour voir où les économies peuvent être faites, car toutes les associations vont passer par ce régime sec d'économie.
On a déjà fait moins de 10% l'année dernière, de façon globale, à tous les niveaux, et là, on veut les justificatifs, et je pense que l'année prochaine, il y aura d'autres réorganisations, c'est-à-dire ce qui est vraiment utile, nécessaire. On a quand même un milieu associatif qui est fort pour la ville de Digne, et qui porte quand même, qui rend service aussi à la ville de Digne, donc tout ça est à équilibrer très justement.
Quels sont les critères justement de quelque chose, d'une association qui est nécessaire à la vie d'une ville?
Les associations qui contribuent, par les associations sportives, le sport, le rugby. Hier soir, on avait une discussion sur le rugby club dinois qui est en train de redynamiser complètement ses organisations, ses activités. Il y a des associations culturelles, ces associations qui permettent d'animer la ville. On essaye d'obtenir d'elles, en contrepartie des subventions, elles puissent effectuer des activités, ne serait-ce que si chacune faisait une manifestation annuelle pour la ville à des moments divers et variés pour animer la ville, ce serait intéressant. Après, il y a tout le critère budgétaire, hein, et puis les rapports d'activité. Et si une association est bénéficiaire, je crois que c'est plus la peine de donner des subventions.
Vous restez avec nous, Patricia Garnet. On vous retrouve dans un instant. Une courte pause. On se retrouve dans 2 minutes, pas plus.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invitée Patricia Granet, on va aborder un autre sujet qui concerne aussi le développement économique et touristique, ça va de pair, de Digne-les-Bains, Cyrielle.
L'agrandissement des thermes de Digne, un vaste projet de 4 millions d'euros, ça a été discuté au sein d'une assemblée extraordinaire du conseil communautaire. On en est où aujourd'hui au niveau de ce projet?
On en est quand on a lancé les appels d'offres pour commencer les travaux et qu'on doit ouvrir les enveloppes et voilà, donc on est là.
Alors, justement, au niveau des appels d'offres, c'est une discussion qui émane beaucoup au niveau du BTP, à savoir, il faut que les marchés aillent du côté des locaux, des entreprises locales. Est-ce que c'est quelque chose de facile, notamment, et de faisable, notamment du côté des thermes?
On y veille en tout cas, on essaye d'y veiller de telle sorte que ce soit local. Maintenant, il y a peut-être une technicité sur certaines choses pour lesquelles il faudra avoir recours à des entreprises extérieures. Mais globalement, les entreprises locales, on veille à ce que ça puisse être le local qui travaille. Mais peut-être pas que sur les termes, hein. Globalement, là, il y a d'autres choses qui sont en cours. Pour la maison de santé, etc., qui font qu'on veille à ce que les locaux... Du moins, le département des Alpes-de-Provence ce soit priorisé.
Oui,
dans la mesure, dans le respect des procédures. Hein.
La maison de santé, ça faisait partie des sujets qu'on allait effectivement aborder parce qu'il y a l'hôpital, mais il y a aussi cette maison de santé du centre-ville qui a beaucoup fait parler. Où en est-on aujourd'hui de cette maison de santé? Sera-t-elle opérationnelle prochainement? Qui seront les médecins qui seront sur place? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que les Dinois peuvent en attendre plus précisément?
Les Dinois doivent en attendre une structure de professionnels de santé, qu'ils soient médicaux, médecins, infirmières, kinés, ergothérapeutes, et j'en oublie certainement aujourd'hui. Donc on a une équipe de professionnels de santé qui travaille donc eux, sous forme un peu associatif, à investir la maison de santé. Et puis nous, on réhabilite actuellement on va réhabiliter la maison de santé, la structure, pour qu'elle puisse être opérationnelle.
Plusieurs chiffres ont été annoncés d'ailleurs là aussi. Est-ce que vous pouvez définitivement nous annoncer un chiffre qui correspond à un début de réalité? Quand je dis un début de réalité, c'est pareil, des travaux commencent, il peut y avoir des dépassements à la sortie, mais en théorie, aujourd'hui, on est à combien?
Je pense qu'il n'y aura pas de dépassement à la sortie. Le plan, l'acquisition. Alors, le plan de financement à l'acquisition était au total de 450 000 euros. Pour la réhabilitation, le montant total des travaux sera de 576 000 euros. Donc il y a toute la réorganisation intérieure des locaux, il y a l'isolation et la mise,
Très clairement, la mise en état. Combien de médecins pourront pratiquer à l'intérieur?
De tête, aujourd'hui, il y a au moins une dizaine de professionnels de santé qui travaillent sur le projet.
On vous met toujours en opposition, et là c'est un sujet aussi récurrent, mais sur lequel on ne vous a pas entendu depuis longtemps. Patricia Granet, il y a la maison de santé qui est portée par la municipalité, il y a une autre maison de santé aussi qui potentiellement pourrait être portée par un porteur de projet privé, David Gellel, qui depuis le début échange avec vous pour essayer de trouver une solution. Alors là, je présente le projet de façon un petit peu plus lisse que ce qu'il en est en réalité, parce que les échanges, on le sait, ont été compliqués jusqu'à ces derniers temps. Lui souhaite une maison de santé qui soit plus polyvalente, avec des médecins spécialisés, avec une clinique vétérinaire qui soit adossée à cette maison de santé. Le seul problème, qui n'en est pas des moindres, c'est qu'il aurait besoin d'une partie du terrain qui appartient à la municipalité.
Il est encore sur ça? Vous êtes encore sur ça? J'en ai plus entendu parler.
Alors, je suis encore sur ça pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, nous non plus, on n'entend plus parler depuis un petit moment, et parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu, Patricia Granet. Et qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler.
D'accord.
C'est aussi pour ça. Donc, je voulais savoir finalement où on en était. Pour nous, aujourd'hui, la question est, c'est entériné, ça ne se fera pas.
Pour moi aussi.
Bon.
Pour Digne.
Et ben voilà.
Et rajoutons quelque chose sur la maison de santé. La maison de santé, il y a aussi un projet médical à l'intérieur.
Ouais.
Avec de l'éducation thérapeutique, des tas d'autres choses. Donc, c'est pas simplement des professionnels qui vont être là à travailler chacun dans leur coin. Il y aura aussi de l'éducation thérapeutique. Voilà. Il y a aussi un projet médical qui est porté. C'est toute la nuance. On a un pédiatre aussi qui est susceptible de venir nous rejoindre. Donc, des spécialistes, en sachant que c'est secteur 1.
C'est dangereux, un privé qui porte un projet de santé ?
Mais non, mais qu'il le fasse, mais c'est du privé, mais qu'il fasse son projet. Nous, on est ravis. Il ne faut pas mélanger les genres. La maison de santé répond à un certain cahier des charges. Ce qu'il fait, c'est du privé, c'est de l'investissement, mais qu'il le fasse, bien évidemment.
Mais en même temps, on pourrait dire que pour le bien-être des habitants, il ne serait pas inintéressant qu'une municipalité puisse aussi l'aider, surtout quand il s'agit simplement de rétrocéder un terrain.
Oui, et de lui en faire cadeau.
Je ne sais pas s'il faut lui en faire cadeau, je ne sais pas ce qu'il vous a demandé et à quel prix il vous a demandé. Mais
Moi, je pense qu'il faut gratter. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Oui. Je pense que derrière, il n'y avait pas grand-chose. Vous
pensez que c'était illusoire comme projet ?
Oui, je pense que c'était un peu mégalo. Il y a un peu de mégalomanie.
Trop
il y a
grand,
des choses pas. Non, dans le sens où il faut être réaliste et il faut avoir des investisseurs avec soi. Quoi. Après, on peut faire un partenariat public-privé, mais il faut que le partenariat ne soit pas que public.
D'accord.
Alors soyons réalistes aussi, ce terrain justement ira à quoi ? Un projet qui pourrait apporter certaines finances à la ville de Digne ?
Pour l'instant, sur ce projet, sur le terrain en question, ça fait quelque temps qu'on est sur d'autres sujets, mais pas sur celui-là. Ça, je pense que celui-là, on en parlera l'année prochaine, pour l'instant.
D'accord.
Pour l'instant, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, même nous, en intra, depuis quelques mois.
Il y a tout de même des bruits de couleur qui parlent de l'arrivée d'un nouveau IPR, supermarché. D'accord, vous êtes aussi dans le point d'interrogation.
Il y a plusieurs pistes, donc voilà.
Mais celle-ci peut
en faire partie. Moi, celle-là pourrait en faire partie. Il y a plusieurs pistes, donc on verra l'année prochaine. Il ne faut pas parler des choses quand c'est flou et pas entériné.
C'est vrai, mais quand on a...
Parce que ça porte malheur.
Oui, mais quand on a la première intéressée sur les sujets qui est à nos côtés, on apprécie aussi de pouvoir aussi avoir son point de vue pour que les auditeurs soient au courant et les habitants aussi. C'est aussi pour ça qu'on pose la question.
C'est sûr que mon souhait, c'est de faire quelque chose de plus grande envergure là-dessus. Et qui sera peut-être aussi utile aux Dignois.
Bon, vous avez déjà une idée derrière la tête, mais vous voulez pas en parler. Sent que la superstition est trop forte.
Je peux pas parce que c'est chaque fois qu'on parle. Vous êtes rendu compte ? Je me suis rendu compte que l'ancienne municipalité, chaque fois qu'elle lançait des choses, ça se faisait pas. Donc c'est pour ça que je veux pas.
Bon, mais il y a un projet tout de même.
Il y a des projets.
Okay. Parlons de projet d'envergure qui verra le jour. C'est l'intercommunalité. L'intercommunalité, on en parle beaucoup avec beaucoup de grogne. Hier, Éliane Bareil, la vice-présidente du conseil régional élue dans les Alpes-de-Provence, était à votre place. Elle disait finalement, c'est peut-être une erreur que certains pays, dans l'UBAI, notamment le pays de Seine, aillent du côté du Dinois. On n'a pas respecté les bassins de vie. On aurait dû, et on ne l'a pas fait. C'est une erreur ?
Pour le pays de Seine, il y a quelques communes du pays de Seine qui auraient préféré aller vers l'UBAI. Après, donc, c'est les communautés de communes dans leur ensemble qui ont été agrégées, je dirais. Aujourd'hui, on a commencé à travailler, nous, au niveau de l'agglomération et des 5 intercommunalités. Et on travaille, on chemine intelligemment et ça se passe très bien. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de scission ? Et c'est la question qu'on posait également hier à Éliane Barret qui partageait cette question en apportant un début de réponse, une risque de scission dans ce redécoupage entre nord et sud du département des Alpes-de-Haute-Provence, avec une guerre intestinale qui existerait de nouveau comme elle a déjà existé entre le nord et le sud.
J'espère pas. Enfin, je pense que c'est ce qu'on veut faire de ces intercommunalités aujourd'hui. Donc, moi, je le dis à mes élus et je le dis au-delà. On va avoir une agglomération à porter. On a une belle page blanche à écrire. On a des tas de choses intéressantes à faire. Et c'est pas fermé. C'est les projets. Il faut les faire aussi avec les autres. Je veux dire, j'ose espérer qu'on ait l'intelligence d'avoir des projets partagés avec les autres intercommunalités. Il y a un SIG sur lequel on travaille toujours, Château Arnoux et DLVA ont déjà commencé à collaborer et dans l'autre sens ça se fera.
Alors parlons justement de Château Arnoux-Saint-Auban. Le 11 septembre dernier, vous déclariez sur Alpe 1 que si le dossier du centre d'enfouissement des Parines se régionalisait, vous pourriez soutenir la position de Patrick Martellini. Alors où on en est aujourd'hui dans ce dossier ? Le préfet des Alpes-de-Provence a ajourné sa décision à février 2017, mais entre-temps, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a rendu publique une instruction en direction des préfets. Elle fixe les orientations des politiques de l'écologie et demande de faire émerger des pratiques innovantes sur les enjeux du climat. Donc c'est une nouvelle pierre contre le CET. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire à l'antenne, je ne soutiens pas ce CET ? qui est soutenu, on le rappelle, par le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Aujourd'hui, c'est pour moi, j'ai tourné la page. Hein, donc le préfet a
décidément, il était temps qu'on vous invite parce que vous avez tourné beaucoup de choses.
Ah oui. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses.
Oui, oui, c'était intéressant.
Oui, c'est intéressant. Je suis à 10 kilomètres de la dernière fois.
Hein. Oui, mais on voit ça.
On a la chance dans
vous
cette future
pas assez
agglomération.
Vous n'exprimez pas Patricia Garnier.
Ah non, mais je sais, mais bon, il faut que vous descendiez à Digne, moi vous invite. Hein.
On a bien compris. Non, mais pour en revenir à ce sujet.
Alors, pour en revenir à ça, l'avantage, je crois, dans cette, l'intérêt, hein, le potentiel qu'on a dans cette future agglomération, c'est qu'on a des élus motivés, notamment sur tout ce qui est environnement. Et que ces élus ont des tas d'idées justement pour que la future agglomération soit tip-top hein, dans la matière de gestion des déchets. Quoi. L'objectif zéro déchet, pour moi, c'était difficile au niveau de la CCABV parce que, bon, petite structure, le passage à l'agglomération va nous permettre de pouvoir optimiser.
Ça répond
optimiser.
Pas du tout à la question de Cyril. Hein. Vous avez remarqué que vous tournez bien autour.
Parce que pour moi, l'éparine, c'est plus un sujet. Quoi.
Mais pourtant, ça va exister. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà
pourquoi
des informations?
Pourquoi ça va exister? Le préfet, pour l'instant, a dit stop.
A dit, je me laisse le temps de réfléchir à cette possibilité et je donnerai mon avis plus tard.
Finalement, la décision du préfet vous arrange?
La décision du préfet, c'est très bien, oui. La décision de l'agglomération, comme je l'ai dit l'autre jour au département, il faut savoir que maintenant, je serai avec Patrick Martellini et qu'on avancera avec les forces en présence dans l'agglomération pour voir ce qu'on va décider.
Et vous serez donc à ses côtés si les bulldozers se mettent en marche pour éviter qu'ils ne viennent piétiner la commune de Château-Arnoux-Saint-Thomas.
Alors cette question, de fois en fois, vous me la posez.
Oui, mais parce qu'on attend toujours une réponse ferme et définitive. Est-ce que vous remarquez qu'on n'arrive toujours pas à avoir un simple oui ou un simple non?
Alors, étant donné que je pense que je ne manque pas de courage politique... Étant donné que je suis capable d'être à côté de Patrick Martellini si les bulldozers arrivent. Oui, j'en suis capable.
Eh bien voilà. Une dernière question qui concerne Digne-les-Bains, et qui n'est pas directement posée par moi. Il manque au maire de Digne-les-Bains la volonté de se battre pour ramener les moyens à la ville. Patricia Garnier, qu'est-ce que vous avez fait pour développer, pour le développement économique de Digne-les-Bains? Cette question émane une nouvelle fois de votre principale opposante.
Non, mais je crois qu'elle a plutôt dit que je n'étais pas capable d'aller chercher les subventions, grosso modo.
C'était donc, la suite de la phrase.
Voilà, donc ça va, il faut arrêter. Je pense que avant qu'on arrive, en moyenne, les subventions qui étaient attribuées à la ville de Digne tournaient autour de 600 000 euros. On est passé à 1,5 million, on est cette année à 3 millions de subventions qu'on est allé chercher. Voilà, donc il y a la maison des jeunes et des étudiants, hein, ça y est, elle a ouvert. Hein.
On en a parlé sur Alpe 1,
voilà,
d'ailleurs.
Mais je sais, j'ai bien apprécié. Il y a la maison de santé... Il y a le palais des congrès.
Oui, qui va être rénové.
On vient d'obtenir 500 000 euros au titre du fonds d'investissement public.
Pour l'isolation, je cherchais le mot, mais c'est l'isolation.
C'est l'isolation et vraiment la mise. Enfin, on va faire des
remise
travaux qui font que il pourra.
Ce qui ne sera pas du luxe, hein.
Ah non, complètement pas, hein, mais voilà. Il y a le palais des congrès. Donc, pour la ville de Digne-les-Bains, vous savez qu'il y a l'hôtel de police, il y a le tribunal d'instance qui font que. La ville va prendre un nouveau visage, et ça c'est intéressant, la place du marché, on a fini le City Stade, on a aussi le City Stade des Tuyas, enfin, la ville bouge, contrairement à ce qu'elle dit, mais bon, elle ne peut pas dire le contraire, bien évidemment, il faut bien qu'elle essaye de se mettre en avant, hein, et voilà. Il y a Digne-les-Bains, hein, la pépinière d'entreprise, donc avec l'espace de coworking, tout qui va bientôt
quand,
ouvrir.
D'ailleurs, quand?
On en a parlé hier soir, c'est vrai que Philippe Nicolosi ne m'a pas spécifiquement donné de date, mais je pense que dans les 6 mois qui viennent, enfin tout au plus, moi j'aimerais que ça soit dans...
Bon, eh ben on en reparlera sur Alpe 1 et on sera là pour l'inauguration. Vous restez avec nous, j'ai quelques questions politiques à vous poser dans un instant, à tout de suite.
Au bout de l'actu, Alpe 1, avec Alex Cam et Cyril Michard.
Mais surtout avec notre invitée ce soir, Patricia Granet, avec qui on va passer dans un instant à la Tribune Libre. Avant ça, 2-3 questions politiques, Patricia Granet, une nouvelle et une information Alpe 1 qui va certainement vous soulager, vous alléger votre avenir politique, puisqu'on apprend aujourd'hui que la conseillère départementale de Ries, Delphine Bagary, est candidate à la candidature pour le Parti Socialiste sur la première circonscription. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que on croit savoir que Gilbert Sauvan, qui est député, dont vous êtes la suppléante d'ailleurs au passage, vous a beaucoup poussé, vous pousse encore beaucoup à prendre la décision de vous porter candidate à la candidature.
Je crois que c'était un souhait, mais que j'ai clairement exprimé mon refus. Voilà, donc ça a été entériné et acté.
Ouais.
Je crois que j'en ai assez à faire, non? C'est à vous qui m'avez dit l'autre jour que j'en faisais trop?
C'est très possible, et c'est d'ailleurs une des phrases qu'on retrouve dans cet article, qui dit que vous êtes effectivement déjà assez occupé dans vos fonctions. C'est donc l'occasion aussi pour vous de tordre le cou peut-être à une idée reçue qui est souvent entendue chez les militants et chez certains élus de gauche, qui ont la sensation que la politique est un peu trop auto-centrée sur la ville de Digne-les-Bains.
Ah bon, moi j'ai pas cette impression, peut-être parce que je le vis de l'intérieur. Hein. Mm-hmm. Auto-centrée, c'est-à-dire que... Mais tant mieux, hein. Mm-hmm. Je veux dire, tant mieux, moi je suis contente qu'on parle de Digne, qu'on parle de la ville-préfecture, et puis on essaye, nous les élus de Digne, de faire tout ce qu'on peut pour valoriser cette ville, donc bon, après, voilà. Après, voilà.
Bon, vous soutenez cette candidature en tout cas.
Oui.
Bon,
oui.
Eh bien voilà qui est dit. On passe donc à la tribune libre, Cyrielle.
Hier, journée de prévention et de dépistage des cancers de la peau. Aujourd'hui, des chercheurs de l'INSERM viennent de développer de nouvelles molécules anti-mélanomes capables de réduire la viabilité des cellules cancéreuses. Faites-vous attention à vous protéger du soleil. On peut peut-être rappeler certains gestes tout simples pour se protéger du soleil, Patricia Granet.
Oui, personnellement, je fais très attention. Parce que je connais tous les risques justement que le soleil peut avoir sur la peau, ne serait-ce que mettre un chapeau, de mettre des crèmes solaires. J'ai ma crème solaire toujours en permanence là, dès que maintenant qu'il fait chaud, il faudrait l'avoir toute l'année, soit dit en passant. Vous savez, dans la voiture aussi, quand vous conduisez, donc j'ai avec moi un des indices forts, hein. Il faut mettre de l'indice 50 au moins pour être bien protégé. Et puis aujourd'hui, je crois que l'industrie pharmaceutique, les laboratoires mettent à disposition des tas de produits.
Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, je vous invite à vous diriger sur le site dermato@fr et vous retrouvez d'ailleurs tous les sites qui vous permettent de faire ces dépistages de la peau.
4 Français sur 10 n'ont jamais consulté un dermatologue.
Qu'on se le dise. On vous écoute, vous qui avez rencontré le micro d'Alpe 1 dans l'Uré des Alpes du Sud. Alors vous, chapeau, crème solaire.
La tribune libre.
Oui, je suis obligée puisque j'ai une teinte de blonde. Donc oui, je me protège, donc crème, j'évite le soleil quand même.
Non, moi je ne me protège pas du tout. Ben, parce que bon, j'y pense pas quoi. Voilà le problème est là.
On fait attention l'été quand on va au soleil se baigner ou autre, mais le restant de l'année, on met rien de particulier pour la fin. Les crèmes habituelles, c'est tout. C'est tout. Il faut qu'on se, faut se booster un peu pour y penser.
Bah avec des crèmes, des écrans total en principe, et puis les enfants surtout, on essaye de les crémer le plus souvent possible, voilà. Ah bah je pense que c'est essentiel parce qu'ils n'ont qu'une peau pour toute leur vie, hein, donc il faut que dès le premier âge, ils soient bien protégés, quoi.
La tribune libre.
Rappelons que pour les enfants, étant donné que la saison estivale arrive et qu'ils ont envie d'aller se baigner, alors soit sur les bords du lac du Verdon ou du lac de Serponçon, un seul tricot de peau ne suffit pas pour protéger les enfants. Hein. C'est crème et tricot et chapeau en plus. Pour tous ceux qui auraient tendance à l'oublier de temps en temps, ça peut être utile. On passe à la phrase du jour.
Alpe 1. 18h-19h. Au bout de l'actu sur Alpe 1.
Je ne suis pas médecin, mais je suis papa. Oui. Je me suis souvent fait taper sur les doigts par ma femme parce que je n'appliquais pas ses préceptes. Je vois Patricia Ganet qui me regarde avec un sourire.
Il faut renouveler les applications aussi.
Oui,
hein.
Oui, c'est exactement. La phrase du jour.
Qui a dit « Message du gouvernement aux enfants de la République, frappe un flic, lui sera décoré, toi libéré, et tu pourras même recommencer. »
Alors, je vous préviens tout de suite, Patricia Ganet, je balance tout. Vous avez éhontément triché hors antenne, et regardez qui avait dit ça.
C'est pas moi qui ai regardé, vous avez vu. Hein.
Mais vous ne vous êtes pas fait prier pour qu'on vous donne la réponse.
Ah bah oui, hein, tant qu'à faire. Voilà.
Bon, on va quand même revenir sur cette phrase donc, et dire que c'est effectivement Gad Elmaleh qui l'a tweeté plus précisément.
Mais vous aviez. Moi, je voudrais savoir. En général, vous nous demandez
quatre propositions.
C'est qui les quatre propositions?
Jean-Luc Mélenchon, Gad Elmaleh, Éliane Bareil ou Christian Estrosi?
Oh, Éliane Bareil quand même, Éliane.
Donc, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon ou Christian Estrosi auraient pu le dire?
Non, mais parce que Éliane quand même là-dedans, c'était pas possible.
Message du gouvernement aux enfants de la République, ça a beaucoup fait parler ce tweet, parce que finalement ce qui est dit implicitement, alors est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une maladresse, mais ce que dit implicitement Gad Elmaleh dans ce tweet, c'est que finalement c'est le gouvernement qui prendrait des décisions de justice et qui aurait fait en sorte qu'on libère ces personnes qui sont suspectées d'avoir frappé ce policier. Vous partagez cette remise en question de ce tweet?
Non, je pense que c'est pas le gouvernement, malheureusement, qui a permis cette libération. Vous savez, à Digne, on a le souci d'un peu de délinquance dans les rues. La police nationale a fait un gros travail l'année dernière et a réussi à mettre sous les verrous les personnes en question. Et puis tout le monde a été un peu dégoûté quelques mois plus tard parce que les juges avaient libéré tout le monde. Donc après, le pourquoi, du comment, mais voilà. Mmh. Donc bon. Mais la phrase est aussi difficile à comprendre entre la oui, première partie et la deuxième.
Plus facile à lire qu'à comprendre à l'oral.
Tout à fait.
Vous nous rappelez, vous aussi, qu'en tant que première magistrate de Digne-les-Bains, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus.
Non,
que vous êtes comme les citoyens.
On subit.
Vous subissez et vous prenez acte des décisions de justice. Avant de se quitter, vous devenez la programmatrice musicale d'Alpe 1 et vous nous avez rappelé à travers votre choix que ce soir, c'est vrai que c'est la fête des voisins. Oui. Taboula froid et quiche froide. Au menu ce soir avec coca tiède.
Vous donnez envie, vous. Vous allez pas la faire sans.
Après, ça donne une grippe intestinale.
Alors, merci. Voilà, vous l'avez placé, effectivement. Non, vous avez bien fait. Soyons bons joueurs. Effectivement, vous êtes un certain nombre à m'avoir fait.
Non, mais Alex a des guerres intestinales voilà. En ce moment.
J'ai ma langue qui a fourché dans une expression.
Mais bon.
Voilà, j'ai ma langue qui a fourché tout à l'heure dans une expression commune. Vous êtes nombreux à m'avoir fait part de votre sentiment et de votre fou rire quand j'ai sorti guerre intestinale plutôt que guerre intestine.
Eh oui.
Je m'en excuse. Merci Patricia Granet d'avoir rejoint.
C'était trop facile.
Oui, mais je comprends, vous avez raison. Bon, allez, c'est la fête. C'est la fête à Alex Cam également pour cette fin d'émission. Et c'est avec Michel Fugain pendant que notre invité passe dans le self-o-maton.
Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête.
En fait, Michel Fugain, c'est le choix de notre invité ce soir. Sachez que pour cette histoire de guerre intestinale, j'en aurai encore pour 3 semaines à vivre avec du second degré signé Cyril Michard. Hein.
De rien.
3 semaines, hein
de...
On est sur
moins.
Ça à peu près.
Peut-être
un peu plus. Bon, merci Patricia Garnier d'avoir été notre invité ce soir.
Merci
d'être passé dans le self-o-maton, un self-o-maton un peu original que vous retrouverez d'ici quelques instants sur le Facebook d'Alpe 1. 19h06, on poursuit dans un instant le récap de l'info. Toute l'actualité de ce vendredi 27 mai, à tout de suite.